Europe 1.
17h, 18h.
Clap. Laurie Choleva.
Bonjour à tous, ravi de vous retrouver sur Europe 1 comme chaque samedi pour Clap, votre rendez-vous cinéma. Installez-vous confortablement, prenez votre paquet de pop-corn ou autres friandises. Et nous, on s'occupe du reste. En première partie d'émission, nous reviendrons sur l'essentiel de l'actualité cinéma, à savoir le tournage du nouveau film d'un grand réalisateur américain à Paris. Didier Allouche nous livrera son JT d'Hollywood. Et puis à 17h20, je recevrai un comédien humoriste qui ne cesse de surprendre. Et pour reprendre le titre de l'un de ses films, qui continue son ascension, c'est Ahmed Silla. Ensemble, nous parlerons de la comédie Jumeaux mais pas trop, et puis surtout des films de sa vie. Enfin, en dernière partie de Clap, ils ne sont pas jumeaux mais se chamaillent comme deux frères. Oh. Franck Vallière et Victor Bonnefoy seront là pour décrypter les films à voir ce week-end au cinéma. Bonjour les garçons.
Franck qui m'a volé mon goûter, c'est pour ça.
Je suis un peu agacé parce que vous savez, c'est le deuxième jour de l'automne aujourd'hui. J'ai acheté une corde en prévision du passage à l'heure d'hiver. Donc faut pas trop me charrier parce que je suis au bord du gouffre.
On va se taper dessus,
Non mais Franck, voyons.
On va se taper dessus, Franck.
J'aime pas l'automne.
Vous allez vous taper dessus?
Non, je crois pas.
Est-ce qu'on a aimé pour plein de trucs en commun? Ah, on va parler d'Athéna, ouais. On va parler de...
Qui est une sortie Netflix.
Oui, tout à fait. Et on va parler des Enfants des Autres aussi, je pense.
De Zlotowski, oui.
Ouais, et je pense qu'il y a plein de belles choses à dire.
Qu'on a tous beaucoup aimé.
Oulala.
Soyez...
On est d'accord, c'est incroyable.
Et oui, et tout ça, ce sera en dernière partie d'émission. Voilà pour le programme de Clap qui commence maintenant.
Europe 1, 17h, 18h, Clap.
Une actualité du cinéma donc très riche, aussi riche en rebondissements qu'un film de Christopher Nolan, mais je ne vous en dis pas plus. Voici les trois news qu'il ne fallait surtout pas manquer cette semaine.
Ah, Metallica.
Ah, l'humour de Franck Vallière. Vous l'avez évidemment reconnu, c'est la célèbre musique de George Gershwin, désormais indissociable du générique de Manhattan, célèbre film de Woody Allen. Et Woody Allen, il en a été beaucoup question durant toute la semaine. Alors, ça a commencé en fait dimanche par une interview dans un journal espagnol où, coup de théâtre, le célèbre réalisateur annonçait sa retraite. Bien entendu, après les mois et la surprise, eh bien, ça a été démenti. Dès le lendemain, lundi, l'un de ses représentants a dit qu'en fait, il avait été mal compris et qu'il était nullement question pour le réalisateur de 86 ans de prendre sa retraite. Et on peut dire...
Il aurait le droit quand même à 86 ans.
Il pourrait.
Ouais, mais il en a pas eu envie. En fait, il va se consacrer à l'écriture. Mmh. Mais même pas l'écriture pour le cinéma, il a envie d'écrire un roman.
Oh là là.
Il semble que ce sont les propos recueillis aussi, par La Vanguardia qui a été mal interprété. Est-ce que c'était pour faire le buzz ou pas? Toujours est-il que double buzz en moins de 24 heures.
Exactement. Bon, il en serait capable, hein, Woody Allen. Et puis, il est tellement boulimique de travail qu'on se dit qu'à un moment donné, il va revenir au cinéma. En tout cas, nous, on aime beaucoup le cinéma de Woody Allen et son humour.
Votre mot préféré, Woody Allen?
My favorite word?
Mon mot préféré?
My favorite word I can't say on television.
Non, ça je peux pas vous le dire à la télévision.
Je peux pas vous le... Ah bon? Mais si, dites-le, si, au contraire.
Oh non, non, I can't.
Ah non, ça vraiment, je ne peux pas.
Pourquoi?
Because my mother might be watching.
Parce que ma mère regarde peut-être l'émission. Non, non, ça je ne peux pas.
Et le mot que vous détestez?
Hello.
Voilà l'humour de Woody Allen qui répondait au célèbre questionnaire de Pivot. Alors on le sait depuis quelques semaines, Woody Allen s'apprête donc à réaliser son 50e film à Paris, un thriller romantique venimeux. Et pour citer le réalisateur, c'est un film dans la veine de Match Point. Il sera donc tourné à Paris entièrement en français. Et depuis mercredi, on sait quels sont les comédiens qui vont avoir la chance de tourner avec Woody Allen. Est-ce que vous avez suivi cette news?
Oui, tout à fait. Il y a Valérie Le Mercier, il y a Neil Schneider.
On parle du père, mais c'est pas confirmé, il me semble.
Oui, tout à fait.
Je crois aussi que Elsa Zilberstein, mais c'est pas encore tout à fait confirmé.
Alors moi, j'ai Elsa Zilberstein, Lou Delage et Melville Poupeau sont également confirmés.
Et oui.
Et il y a beaucoup de gens qui ont dit non d'ailleurs.
Ah oui?
Oui.
Qui a dit non?
Ah bah je peux pas dire.
Ah bah non, Franck.
Non, mais il semble potentiellement que beaucoup de grands noms du cinéma français aient dit non.
Ne souhaitaient pas tourner avec Woody Allen. Un tournage donc qui débutera en octobre et il faudra donc attendre 2023 pour le découvrir sur grand écran. En attendant et pour se faire plaisir, et en plus parce qu'on a parlé de ce film la semaine dernière, puisqu'il y a des clins d'œil au cinéma de Woody Allen dans le film d'Emmanuel Mouret, Chronique d'une liaison passagère, qui a très bien démarré d'ailleurs mercredi dans toutes les salles de cinéma.
Oh bah c'est même plus des clins d'œil, c'est littéralement Emmanuel Mouret qui veut faire du Woody Allen, ce qui ne me dérange absolument pas, mais c'est quand même vraiment vraiment ça. Et Emmanuel Mouret, notre Woody Allen français,
peut-être. Ouais, peut-être. Alors, en tout cas, on a parlé de Annie Hall et on ne résiste pas à l'envie de l'écouter, cet extrait.
Je me souviens bien des instits de notre école. La grosse vanne chez nous, c'était ça. Les bons à rien font instit, les même pas bons à faire instit font prof de gym. Et alors ceux dont on pouvait vraiment rien tirer, on les collait d'office dans notre école. J'avoue que je me suis toujours senti entouré de petits crétins. Melvin Greenglass, par exemple, avec sa petite bouille épatée. Henrietta Farrell, alias Miss Bien, sous tout rapport. Et Yvan Ackerman, alors lui, toujours à côté de la plaque. Toujours.
7 et 3, ça fait 9.
L'autre actualité qu'il ne fallait pas manquer cette semaine, c'est la sortie compliquée de Black Panther, Wakanda Forever, dans les salles françaises. Alors Disney détient donc les droits du film Marvel, et en fait ils font pression avant la sortie du second volet, qui est très attendu, hein, faut le dire, par les fans, et qui devrait sortir normalement en novembre prochain. Il y a toute une polémique au sujet de la chronologie des médias. Victor, vous allez tout nous expliquer.
Alors en fait, en France, il existe un truc qui s'appelle la chronologie des médias, qui décide un peu des fenêtres de diffusion des films. On a un film en salle, puis un film en VOD au format physique, puis plus tard des films sur des plateformes. Et ça, ça embête un petit peu Disney, parce que Disney, ils ont une plateforme qui s'appelle Disney+, et déjà que à la base, normalement, les films attendaient 36 mois pour arriver sur Disney+, après une sortie salle, ils attendent maintenant 15 mois. On a revu la chronologie des médias pour eux. Mais eux, ça leur va pas. 15 mois, c'est déjà trop. Eux, ils veulent 45 jours. Alors, on peut être pour ou contre cette décision. Personnellement, moi, je trouve que Disney nous casse sévèrement les bonbons, parce qu'on va pas commencer à adapter notre système français aux politiques libérales ultra-américaines. Et donc, pour faire ça, Disney se sont dit, qu'est-ce qu'on peut faire pour essayer de faire pression sur l'État français? Eh ben, on va aller mobiliser des gamins de 13 ans sur Twitter qui ont jamais rien compris à la législation française, en leur disant, l'État français, il est très méchant, et vu qu'il est très méchant, on va pas sortir Black Panther 2 en salle, on va le mettre que sur Disney+. Donc, forcément, des gamins qui comprennent rien à la législation française commence à gueuler en disant l'État français méchant. Non, il n'y a pas de méchant, il n'y a pas de gentil. La chronologie des médias, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, c'est un système vertueux qui a permis de produire énormément de cinéma. C'est ce qui nous permet d'avoir la diversité de notre cinéma en France. C'est ce qui permet que notre cinéma ne se casse pas la gueule comme le cinéma italien, comme le cinéma espagnol, comme le cinéma allemand. Si aujourd'hui le cinéma français brille à l'international et permet de produire autant de grands films, qu'ils soient français ou autres, c'est grâce à cette chronologie des médias. Et on va pas commencer à la supprimer juste parce que Disney fait un caca nerveux d'enfant de 6 ans.
Et donc la décision sera rendue ?
Alors normalement, on saura la décision finale le 4 octobre. C'est le patron de Disney France, Fred Monroe, qui le dira à ce moment-là. Il s'est toujours battu pour les salles de cinéma en France, Fred Monroe. On croise les doigts pour qu'il continue dans cette direction.
Bon, eh bien, on vous donnera l'information dans Clap. Et puis, comment ne pas parler de l'événement cinéma de la semaine ? En fait, c'est un peu l'événement avant l'événement, en attendant la suite, puisque le chef-d'œuvre Avatar de James Cameron est ressorti mercredi au cinéma. Et ça nous fait bien plaisir, puisque Avatar, c'est le plus gros succès de l'histoire du cinéma. Pour vous donner une idée, le film a rapporté un peu plus de 2,8 milliards de dollars de recettes à travers le monde. Avatar, c'est aussi 9 nominations aux Oscars, dont 3 Oscars remportés. Meilleure photo, meilleur effet visuel et meilleure direction artistique, hein, forcément. 13 ans après sa sortie, le film ressort donc dans une version remasterisée, inédite, après avoir révolutionné les genres de la science-fiction en 2009, avec des effets spéciaux vraiment éblouissant. Avatar, c'est une prouesse technique hallucinante.
Vous utilisez le mot remasterisé. Laurie, c'est pas seulement remasterisé. Parce qu'il faut imaginer, le film est sorti en 2009, donc il y a 13 ans. Et pour cette ressortie sale, c'est pas juste dire, on l'a un peu repeaufiné. L'entièreté des effets spéciaux du film ont été refaits pour essayer justement de convenir à de nouveaux écrans, à de nouveaux systèmes de diffusion 4K. C'est pas juste un petit boulot comme ça. C'est la possibilité pour tous les gens qui attendent Avatar 2, ou peut-être pas, de se rappeler pourquoi Avatar, ce film où on dit c'est Pocahontas avec des schtroumpfs. Non, c'est juste un des plus grands films du cinéma moderne, un des films qui a influencé la manière même dont on diffuse des films aujourd'hui. Si vous ne comprenez pas l'influence qu'a eu Avatar sur le cinéma, c'est l'occasion d'aller dans une salle et de le redécouvrir sur grand écran, parce que c'est sûrement un des trucs les plus brillants et fondateurs du cinéma moderne.
Et puis un film précurseur qui parlait aussi d'écologie, de planète.
Bien sûr, et un film qu'on ne peut plus voir sur Disney notamment. Voilà, puisqu'ils l'ont retiré du catalogue le temps qu'on l'exploite en salle.
Oui, mais qu'est-ce qu'on s'en fout de Disney+, au bout d'un moment ? C'est pas possible, allez dans des salles de cinéma, allez voir Avatar.
Bon, en tout cas voilà, si vous voulez redécouvrir ou découvrir ce film avant la sortie d'Avatar 2, La Voix de l'eau, le 14 décembre, courez au cinéma. Et pour finir ce tour d'actualité, Didier Alouche revient pour nous sur la news d'outre-Manche qu'il ne fallait surtout pas manquer. On va parler d'un certain Steven Spielberg.
Europe 1,
Clap, le JT d'Hollywood, Didier Alouche.
Salut Laurie, salut à tous. Depuis dimanche dernier, on connaît le film à battre dans la course aux prochains Oscars. Dimanche, c'était la clôture du Festival de Toronto et l'annonce d'une récompense très attendue, le prix du public du festival. Pourquoi si attendu ? Eh bien parce que sur les 10 dernières éditions du festival, 9 de ses lauréats ont été nommés à l'Oscar du meilleur film et 3 ont même été jusqu'à gagner la statuette suprême. C'est donc plus que bon signe pour le vainqueur de cette année, The Fabelmans de Steven Spielberg. Les réactions à l'avant-première mondiale du film à Toronto ont été si dithyrambiques que l'issue de la compétition ne faisait aucun doute, à tel point qu'aujourd'hui, le nouveau film de Tonton Steven est tout simplement le favori numéro 1 dans la course aux Oscars. Et si Léa Seydoux était elle aussi aux Oscars ? Le film de Mia Hansen-Love, Un beau matin, où Léa est tout simplement formidable, revient d'une tournée triomphale dans les festivals d'automne nord-américains à Telluride et à Toronto. C'est là que la rumeur Léa aux Oscars a démarré. Si ça se confirme, elle succéderait ainsi à Isabelle Huppert, dernière actrice française nommée aux Oscars, c'était en 2017 pour Elle. Espérons que la rumeur Léa aux Oscars prendra de plus en plus d'ampleur. Ce serait pas mal de retrouver Léa Seydoux et Steven Spielberg sur le même tapis rouge sur Hollywood Boulevard le 12 mars prochain.
Effectivement, un beau tapis rouge en prévision. Merci beaucoup Didier pour toutes ces news d'Hollywood. Et bien sûr, on te retrouve la semaine prochaine. Surtout ne bougez pas car dans un instant, je recevrai l'acteur et humoriste Ahmed Silla pour nous parler de son nouveau film Jumeaux, mais pas trop. A tout de suite sur Europe 1.
Europe 1.
17h, 18h, clap.
Laurie Choleva sur Europe 1.
Merci d'être avec nous sur Europe 1, c'est la suite de Clap et je suis ravie cette semaine de recevoir l'humoriste et comédien Ahmed Silla. Bonjour Ahmed.
Bonjour Laurie.
Qui nous fait une petite danse de bienvenue, j'adore.
Je te vois, je suis content.
Oh bah écoute, c'est réciproque. Alors Ahmed, dans Jumeaux mais pas trop, tu joues aux côtés de Bertrand Huskla, vous incarnez des jumeaux qui à 33 ans découvrent l'existence l'un de l'autre.
Exactement.
Ça fait tard hein, pour se découvrir un frère jumeau.
Qui ça en fait plus, tard, mais ça fait une bonne histoire.
Ça fait une bonne histoire, parce que donc, deux frères jumeaux que tout oppose, qui ne se ressemblent absolument pas.
C'est ça, que tout oppose. On a chacun grandi dans des familles différentes, dans des contextes sociaux différents, et on va se retrouver et on va devoir faire qu'un.
Alors, vous avez accepté le film pour quelle raison déjà ? Bertrand Huskla, vous ne le connaissiez pas ?
Je ne le connaissais pas du tout. J'ai accepté le film parce que... alors déjà, j'avais une certaine affinité avec Olivier Ducret, qui est un des deux coréales, avec Wilfried Méhanse. Et on se connaissait un petit peu puisqu'il a co-scénarisé le film L'Ascension. Donc voilà, c'est-à-dire que j'avais l'ouïe assez fine.
Oui, c'est
pour
ça.
Pour écouter son petit pitch.
Oui, voilà, il y avait déjà un passif.
Exactement. Et ensuite, franchement, j'ai lu le scénario et j'étais ému à la lecture. Et c'est la première fois que ça m'arrive d'être ému sur papier.
Parce que L'Ascension, c'était déjà émouvant.
Ouais, c'était émouvant, mais je percevais plus le feel good movie, l'aventure, ce truc-là. Et là, il y avait un côté très familial qui m'a vachement touché.
C'est drôle, un duo de réalisateurs pour réaliser une histoire de jumeaux.
Et surtout qu'un des deux réals a deux sœurs jumelles, deux fausses sœurs jumelles.
Ah d'accord, c'est fou, hein. Ouais. Mais c'est pas ça qui l'a inspiré, je crois qu'il s'est vraiment inspiré d'un fait réel.
C'est inspiré de faits réels, ouais.
C'est quoi cette histoire d'ADN ? Ah, elle a dit qu'en l'état, on savait pas si l'ADN trouvé était le vôtre ou celui de votre frère jumeau.
J'ai pas de frère.
Bah si.
Bah non.
Bah si.
Si j'avais un frère jumeau, je le saurais.
En fait, si, j'en ai un.
Oh le cauchemar.
Et c'est lui, c'est ce... Enfin voilà quoi.
Bonsoir. Il a la politique dans le sang.
Beaulieu, c'est mon frère.
Quand Grégoire l'apprendra, il sera très très choqué.
Le pauvre, apprendre qu'on a un frère jumeau noir.
Avec Bertrand Huskla, vous êtes différent dans la vie, vous avez des parcours différents. Est-ce que cette réalité vous a aidé finalement pour jouer des frères que tout oppose ?
Elle nous a aidé, ouais. C'est vrai que sur le plateau, on s'est rendu compte, en tout cas la première fois qu'on s'est rencontrés, on s'est rendu compte qu'en fait nos deux personnages avaient un peu le même parcours de vie que nous dans la vie. Alors tout est relatif parce que Bertrand Huskla dans la vie n'est pas un homme politique un peu connard, on va dire.
un peu beaucoup connard. Il le fait très bien.
Hein.
D'ailleurs, parenthèse, il s'est inspiré de quel homme politique ? Il vous l'a dit ?
Il s'est beaucoup documenté sur Édouard Philippe, je sais. Et sa maman lui a dit qu'il ressemblait à Macron.
C'est vrai ?
En sortie d'avant-première, il lui a dit « C'est dingue, tu m'as fait penser à Macron ». Ce qu'il dit, Bertrand, c'est que comme chez lui, le bulletin secret est respecté, il sait pas si c'est un compliment, il sait pas si sa mère aime Macron ou si elle l'aime pas.
Et tous les deux, vous saviez ce que vous aviez fait ? Enfin, vous par exemple, vous regardiez Brout, qui est son programme.
Oui. Je suis fan de Brout et je lui en veux d'ailleurs. Il m'a jamais invité.
Vous auriez voulu. Ah, rien n'est trop tard.
Bah si, c'est fini là. Il veut plus faire.
Il veut plus en faire. Oui, il fait le long métrage.
Ouais, mais. Non. Non. Je veux être là à la genèse. Je veux pas arriver quand t'es au top, moi.
Ben, vous serez là au prochain. Il y aura bien un autre projet.
J'espère, mais c'est vrai que je suis assez. Je suis assez ému, en fait, là, Laurie.
Ah, ça se sent. Hein. Alors bon, pour en revenir au film, Jumeaux mais pas trop. D'ailleurs, j'ai pas donné la date de sortie, hein, mais ça
c'est
sera au cinéma le 28
septembre.
Il faut absolument noter cette date. C'est un film très drôle, mais aussi avec beaucoup de. Enfin, c'est très émouvant, c'est très sensible. C'est un film qui parle des liens du sens, de
exactement,
la famille qu'on se construit,
famille,
l'égalité des chances,
la fraternité, et surtout ce que j'ai beaucoup aimé dans ce film et là encore, je remercie les deux réalisateurs qui ont fait un vrai travail d'écriture et de scénarisation. C'est que, bah, ils sont allés à l'encontre de tous les clichés,
oui,
de toutes les caricatures que pouvait laisser supposer ce pitch de départ.
C'est vrai.
Vraiment, c'est-à-dire qu'on peut s'attendre à un film, voilà, où on va faire des vannes sur les noirs, sur les blancs, les mettre en confrontation, monter tout ça en épingle, monter tout ça en exergue. Et non, en fait, voilà, on rit ensemble et pas contre. Et il y a une vraie intelligence sur ce film.
Chauffeur auxiliaire.
Anthony, enchanté.
Outé, papa, outé.
Oh, outé, Anthony,
papa,
Anthony,
outé,
oh, outé, Anthony, on peut couper.
Après, moi, si je sens pas, je suis pas détendu. Et quand je suis pas détendu, j'ai tendance à trop parler.
Après, c'est vrai que c'est sympa de mettre un peu de musique.
Et c'est vrai que ça tombe jamais dans la caricature. Et ça, c'est bien. Et il y a des scènes... Enfin voilà, je peux pas déflorer le film.
Bah oui,
mais il y a quand même.
T'allais spoiler là ?
Pas du tout, mais Ahmed.
Mais Laurie, enfin ! Spoil pas les movies comme ça.
Il y a quand même des scènes. On a quand même envie d'en parler.
Oui ! Lesquelles ? Dis-moi.
Bah, une scène où toi.
Oui.
Tu es quand même tout en émotion.
C'est pas faux.
Qu'est-ce qu'on peut dire alors sans spoiler ?
Qu'est-ce qu'on peut dire ?
Je te laisse le faire, comme ça, moi je ne prends aucun risque.
Bah, ce qu'on peut dire, c'est que. Le 28 septembre,
oui.
La première séance sera à 9h dans vos salles de cinéma.
Ça, on peut dire partout en France.
Et qu'au bout de à peu près 1h...
Oui, ça vient tard.
10-15, normalement, si on a bien travaillé...
Un petit mouchoir dans la poche.
Voilà. Faut venir accompagné d'un Kleenex.
Et ben moi j'ai adoré. Bon, j'étais tutoyée, vous voyez, pendant cette interview. C'est
bien sûr. On se connaît un peu, donc c'est
difficile depuis le début.
Tu m'as vu depuis le début. Tu m'as vu tout bébé.
Et puis voilà.
Alain Peduès, tu te rappelles ?
Exactement. Lorsque tu as présenté l'ascension.
Exactement.
Et depuis, cette ascension ne cesse de continuer.
En fait, tu me portes au change, je crois.
C'est vrai. Franchement, ça, j'adorerais.
Tu sais ce qu'on va faire, Laurie ?
Je vais venir pour chaque sortie de film.
Même pas, je vais faire mieux que ça.
Dis-moi.
Je vais acheter un petit anneau. Je vais te mettre en porte-clés.
Oui.
Et tu vas me suivre, tu sais, sur mon sac, comme on faisait quand on était au collège.
Ouais.
Sur mon petit sac.
Un petit pins.
C'est ça. Comment il s'appelait,
Laurie.
Le petit... Kipling. C'est
ah
ça,
bah
c'est
oui.
Kipling.
Ça, c'était la marque
Kipling,
du sac. Ouais, les sacs un peu en tissu.
Ah ouais, avec le petit porte-clés singe.
Je me rappelle
là.
Très bien. Ah mais oui.
Ah ouais, extraordinaire.
Okay, d'accord. Je sais pas si ça fera plaisir à tout le monde chez moi. Je risque de manquer à 2-3 personnes. Mais bon, on peut.
Moi, je peux facilement te déposer le samedi. Hein. Je te récupère le
oui,
dimanche soir.
Oui, c'est ça. Tu me ramènes à la maison pour le week-end.
Tranquille.
Merci. T'es trop sympa, Ahmed. Alors, si on devait parler d'une scène du film, toi, ta scène préférée ?
Bah, ma scène préférée, c'est vrai que. On peut le dire, c'est un peu ma zone de confort, la comédie. C'est, je m'y sens bien. C'est un peu, tu vois, je suis un peu comme sous la couette, quoi. Je suis bien, je suis à l'aise, je suis au chaud. Et j'aime bien être challengé sur des scènes un peu plus difficiles, un peu plus authentiques. Et c'est vrai que quand on va dans l'émotion, j'ai un vrai plaisir. J'ai un vrai plaisir à jouer ça parce que tout d'un coup, tu te mets un peu à nu. En fait, tu partages quelque chose de très personnel.
C'est ça, c'est que t'es obligé de puiser dans ton vécu, dans des choses qui te touchent.
C'est ça. Et comme j'ai pas fait d'école de théâtre, de comédien, de cinéma, je fonctionne beaucoup à l'instinct et tout naturellement pour jouer des scènes d'émotion, je vais chercher des trucs très, 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 très personnels. Donc c'est pour ça que ce film, il a une saveur particulière pour moi parce que j'ai énormément pensé à mon papa, j'ai énormément pensé à ma famille, à des gens que que j'aime, qui me manque aujourd'hui. Et bah, après, ça a donné ce que t'as vu, quoi.
Ce que j'ai vu, ce qui m'a fait pleurer, ouais. Moi aussi, oui, oui. Il a pleuré, Bertrand, sur le tournage.
Ouais.
Bertrand Huskla, hein, ton coéquipier.
Il est très fort. Il a une manière de bosser, moi, qui me fascine. C'est, il déconne pas. Il est hyper, hyper cadré. C'est pour ça que, c'est un vrai partenaire parce que c'est quelqu'un qui écoute. Et quand tu joues avec un partenaire qui écoute, qui est pas concentré sur son jeu, t'es dans le partage et comme dit tonton Cluzet, un bon film c'est des acteurs qui partagent, merde.
Bah oui.
Putain. Non mais merde. Fait bien,
vous le faites hyper bien. En plus, on l'a reçu il y a quelques semaines. On a eu cette discussion et c'est vrai que c'est la clé de la réussite du film. Ça
Laurie,
change tout.
Parce que quelque part en France, allez, arrête.
La générosité.
La générosité, merde.
Et ça vous va bien à Bertrand Huskla et à vous d'ailleurs cette histoire de générosité. Qu'est-ce que vous aimez faire mais pas trop dans la vie?
Du sport.
Ah voilà. Mais généralement, on répond tout ça. Hein.
Ouais. Du sport. Hein.
Quel sport?
Le spa, franchement.
Bah voilà.
Alors attends, regarde, tu sais ce que je vais faire, Laurie, ça va t'aider. Je vais me lever.
Oui.
Et tu vas comprendre que mon corps.
Ah bah sinon, moi je trouve qu'il est bien.
Oui, non mais. Enfin, là, c'est parce que je travaille, parce que je prépare un rôle, tu vois.
C'est quoi le rôle?
C'est un rôle de boxeur.
Ah, génial.
Ouais.
C'est quoi le film? On peut en dire un mot ou pas?
Ah, je sais pas. Je crois qu'il va m'engueuler, je crois.
Ah mince.
Parce que je voulais en parler sur Insta, il m'a dit non. On n'a pas encore parlé.
C'est qui, c'est le réalisateur?
C'est il, c'est le réalisateur.
Ah. Avec qui vous aviez déjà travaillé?
Non.
Non, mais j'aime trop Ahmed Silla pour lui tendre un piège, donc j'arrête de creuser.
Ouais, s'il te plaît, parce qu'en plus, moi,
t'as envie,
je t'aime
en plus,
trop,
hein,
je vais répondre.
Je sais qu'il a envie. Bon, on va continuer à parler ensemble dans quelques instants des films de votre vie. Ahmed,
oui.
Vous restez avec nous?
Bah écoute, ouais.
Ok,
ouais.
Allez, merci, ça m'arrange. Hein.
Et tout de suite, le point route avec Mathilde Panet.
Allez, à tout de suite sur Europe 1.
17h, 18h, clap.
Laurie Choleva sur Europe 1.
Et nous sommes de retour sur Europe 1. C'est clap, votre rendez-vous cinéma qui continue. Et cette semaine, mon invité cumule tous les talents et il sera à l'affiche de Jumeaux, mais pas trop. Prix du public au dernier festival de comédie de l'Alpe d'Huez. Et le film sortira le 28 septembre. Ahmed Silla est donc à mes côtés. Ahmed, le festival du film de comédie de l'Alpe d'Huez, vous êtes chez vous, hein, c'est un festival qui vous... Alors moi, je vous porte chance,
oui,
hein, c'est ce qu'on a dit il y a quelques instants, mais le Festival de l'Alpe d'Huez aussi.
Mais je suis déjà en contact avec eux pour les mettre en porte-clés aussi, pareil.
Ah bah non, bah là non.
Hop, et hop.
Je dis non.
Non, mais c'est vrai que c'est incroyable, c'est-à-dire que les deux seules fois où je suis allé en compétition avec un film, on est reparti avec l'amour du public, j'ai même pas envie de dire le prix du public, j'allais dire l'amour du public, parce que à chaque fois ça a été émouvant.
L'Ascension, c'était le premier.
C'est ça, l'Ascension, c'était le premier, et là... ce qu'il y a de très satisfaisant sur Jumeaux mais pas trop, c'est que la majeure partie des gens nous disent on s'attendait pas à ça. Et cette phrase elle est dingue, parce que ça veut dire qu'on a surpris les gens et tout, et non, c'est très fort.
Me souviens de vous avec Bertrand Huskla, les larmes aux yeux, c'était vraiment un joli moment.
Dingue, hein. Ouais. Ah, c'était dingue. À chaque fois, de toute façon, dès que je vais là-bas, je chiale comme une madeleine.
Bon, alors on va parler des films de votre vie. Si je vous demande votre première grande émotion au cinéma.
Je crois que c'est Le Roi Lion. Ouais.
Vous aviez quel âge?
Je dois avoir 4-5 ans par là. C'était dingue. Ce film est ouf.
Mais quelle grosse magnifique.
C'est cadeau.
Hakuna Matata. Quel chant fantastique.
Ce film
est fou. Elle est dure à dire, celle-là.
Tu vis pas ta vie. Ouais, chante petit, sans aucun souci. Philosophie. Hakuna Matata.
Hakuna Matata, merde.
Il faut laisser les
fesses. Ah, on a encore envie, hein.
Ouais.
Mais moi, je suis d'accord, c'est le meilleur Disney.
Mais tu sais que, je te jure, je voulais avoir la voix de Simba.
C'est vrai.
Mais il a une voix, tu sais, je sais pas comment la décrire. C'est un peu, il y a un peu d'air dedans, avec un petit peu de nez et tout. Il a une voix incroyable, la voix de Simba.
La voix française.
La voix française de Simba, elle est folle. Elle était trop... Ouais.
Et puis la scène d'ouverture du Roi Lion, c'était magnifique
même,
avec tous les animaux de la jungle qui viennent accueillir Simba.
Waouh.
C'est... Non, mais pour moi,
ce
plan est dingue.
Magnifique.
Votre meilleur souvenir de cinéma?
Mon meilleur souvenir de cinéma, je crois que c'est la première fois que j'allais avec autant de potes au cinéma. Et c'était pour Bienvenue chez les Ch'tis.
Oui, donc devait y avoir une ambiance quand même.
Mais il y avait une ambiance
assez sympa dans les salles.
Vraiment. c'était à une c'était l'époque je crois bénie du cinéma français. Mmh. Il y avait des gens assis dans les escaliers, vraiment.
je te jure,
en fait la salle était complète et les gens achetaient des tickets pour les autres films et ils venaient voir le film dans la salle, quoi, tellement il y avait un buzz sur ce film, des vrais éclats de rire,
c'était incroyable.
Mais on était morts de rire et des fois en fait on rigolait à des moments où les gens rigolaient pas. On était des fois un petit peu en décalage.
Oui, ça c'est le côté groupe aussi.
Le côté groupe,
qu'on s'engraine,
ouais. franchement, c'était cool ça.
Votre séance de cinéma la plus dingue?
Je crois que c'est Avatar, hein. C'est le début de la 3D.
Ça tombe bien, on en parle beaucoup en ce moment.
Ouais, ils ressortent. Mmh. C'est la preuve, hein.
Et oui, Avatar ressort cette semaine. Ah voilà, ça c'est la musique. Et Avatar 2 sortira le 14 décembre.
Je pourrais pas chanter là. Hein.
Non, là c'est dur.
Vous voyez comment c'est. Qui c'est qui a fait la musique d'Avatar?
La musique, elle est James Horner.
Oh là là.
Ah oui, c'est génie. Magnifique.
James, if you hear me, you're a genius.
Le film qui vous fait le plus rire?
Le film qui me fait le plus rire, je crois que c'est Le Dîner de Cons.
Ah oui, c'est culte.
Ouais,
c'est
ça, c'est
cultissime.
Culte. Monsieur Leblanc. Il est. C'est-à-dire que tu as là une masterclass de la rigueur comique avec Jacques Villeray. C'est extraordinaire.
Il s'appelle Juste Leblanc.
Ben voilà.
Ah bon, il n'a pas de prénom.
Je viens de vous le dire, Juste Leblanc. Leblanc, c'est son nom et c'est juste son prénom. Hein. Monsieur Pignon, votre prénom à vous, c'est François, c'est juste?
Oui.
Et bien lui, c'est pareil, c'est juste. Bon, on a assez perdu le temps comme ça.
Jacques Villeray, Thierry Lhermitte, Daniel Prévost, non mais c'est que du bonheur. Mais ça, en plus, on peut le revoir, mais sans fin.
Franchement, je me le fais une fois au moins tous les deux ans.
Ah mais c'est pas mal.
Il est incroyable.
Ça repasse tout le temps à la télé. Enfin bon,
Prévost dedans, c'est ouf. Tous les personnages sont dingues. Et c'est un huis clos, hein.
Quasiment. Oui, bah oui.
Aujourd'hui, refaire ça, tu vois, des huis clos comme ça de comédie, c'est pas facile, hein.
Non. Et qui attire autant de gens, et qui attire autant de gens dans les salles. Le film qui vous fait pleurer à chaque fois?
C'est Jumeaux, mais pas trop. Et je te jure que je n'ai pas répondu ça.
Donc votre film qui sortira le 28 septembre.
Ouais. Et je dis pas ça parce qu'il faut en faire la promo. Vraiment, je te jure. Tu me connais.
Mm-hmm.
C'est qu'en fait, c'est le film que j'ai fait que j'ai le plus vu. Je l'ai vu une vingtaine de fois. Mais pas par mégalomanie, hein.
Montrer à chaque fois ou...
Pour le montrer à des potes, à mes parents, tout ça. À mes parents, à ma mère. À mes frères et sœurs, tout ça. Et à chaque fois, je suis pris au même moment.
Ah oui, c'est ce que j'allais dire.
Au
même
moment. Fois.
La scène dont on a parlé tout à l'heure.
Ouais.
La scène
à chaque fois, ça me fait un truc. Parce que ça me remet dedans, en fait. Ça me remet sur le tournage.
Et sur l'émotion particulière.
Et sur l'émotion. Sur le tournage. Après, si je dois aller ailleurs, il y a un film qui, moi, m'émeut à chaque fois. C'est Man on Fire.
Ah oui, magnifique.
Ah, Man on Fire, Denzel dedans. Il me déchire le cœur. Tu vois la scène de fin quand il est dans la voiture.
Ouais. J'adore.
Oh là là.
Ouais, c'est vrai. Vous pleurez beaucoup en général au cinéma?
Non, je pleure pas. Je suis ému, mais je pleure pas.
Et dans la vie?
Ça m'arrive, ouais. ça m'arrive, ouais.
Et à la fin du tournage de Jumeaux, mais pas trop?
À la fin du tournage de Jumeaux, mais pas trop, j'ai pleuré, je crois, si je dis pas de bêtises. Même en tournée d'avant-première, là. Les gens, ils m'ont vachement
aimé.
On est retourné à Angoulême faire une avant-première. Et je sais pas si c'est la fatigue ou peut-être un mélange des deux, mais les gens m'ont touché. On a reçu un accueil. Les gens sont restés debout pendant 3-4 minutes à nous applaudir.
Bah, c'est.
Bah, c'est mérité. Gardez votre amour, laissez-le tranquille. C'est la fin de l'abondance,
oh,
là.
Ça fait du bien, un peu d'amour. Votre comédie romantique préférée?
Love Actually.
Ouais, sans hésitation.
Ouais.
J'adore.
Les pancartes. Laurie,
les pancartes.
Ce plan est magnifique.
Qui n'a jamais rêvé?
C'est-à-dire que tu te dis, la femme est potentiellement en train de tromper son chéri qui est à l'intérieur, tu vois. Mais tu t'as envie que
mais
ces deux-là, ils
s'embrassent. Mais on a envie qu'elle parte avec,
quoi.
Quand même. Ouais, c'est ça. Alors qu'elle vient de se marier.
Tristesse.
Non, puis tout est drôle. Toutes les scènes, parce que c'est plein d'histoires qui.
Je vais me le refaire. Franchement, je vais me le refaire ce soir.
Ou à
je t'enverrai une photo.
Ah oui, ok.
Non, bon, pas Noël, ouais. Sinon,
c'est
ça fait
un peu
le film
la
de Noël.
Oui, bah oui, mais c'est un peu quand même le film de Noël. Quoi.
Ouais, mais non.
Et puis, ils sont tous formidables, les acteurs. Le film que vous conseillez à un enfant, bon, très logiquement.
Le Roi Lion.
Voilà, Le Roi Lion. Pourquoi
ça peut faire peur.
Faut faire avance rapide au moment de la mort du père.
Ouais. Voilà. Faut passer rapidement là-dessus parce que c'est.
Mais moi je dis à mes enfants. Oui, c'est ça.
Longue vie au roi.
C'est horrible. Et moi je leur parle et puis je leur dis le roi il est malade, ouais. Il va aller se reposer et puis il reviendra dans un autre film. Voilà.
Oui, exactement.
Et là ça passe.
Non, pourquoi celui-là? Parce que c'est pareil, c'est le lien là. Le lien entre un fils et son papa, ouais, tout ça, enfin c'est magique, c'est magnifique.
Ouais, forcément, aujourd'hui, pour vous, l'amitié, ça doit être difficile aussi de le revoir.
Ouais, bah, moi, si je le revois là, maintenant, là, ça va me tuer.
Quand ils sont forts, Disney, pour ça. Ouais.
Oh, c'est terrible. My God.
Et puis, le petit qui a toute cette culpabilité aussi, parce qu'il pense qu'il est responsable de la mort de son père.
Enfin, c'est un peu de sa faute, hein.
Ouais, oui, en vrai.
Il a un peu déconné, hein.
Ahmed Silla, si je vous demande une réplique culte.
C'est pas la chute qui compte, c'est l'atterrissage.
C'est l'histoire d'un homme qui tombe d'un immeuble de 50 étages. Le mec, au fur et à mesure de sa chute, il se répète sans cesse pour se rassurer. Jusqu'ici, tout va bien. Jusqu'ici, tout va bien. Jusqu'ici, tout va bien. Mais l'important, c'est pas la chute. C'est l'atterrissage.
C'est ça, l'important, c'est pas la chute, c'est l'atterrissage. C'est ça, la vraie.
Ouais.
L'important, c'est pas la chute, c'est l'atterrissage. Dans
c'est
quel
vrai,
état on arrive en
plus.
Bas. C'est dingue, hein.
C'est dingue.
Parce
hein.
qu'on peut chuter. Tu peux être arrivé très haut, chuter, et t'arrives, en fait, très bien en bas.
Avec grâce.
Avec grâce, parce que t'as pris des leçons. Ou alors tu chutes, t'en tires aucune leçon et tu t'écrases comme une merde.
Et le film, vous l'aviez aimé aussi?
Mais le film, c'est pareil, c'est un classique. C'est une masterclass. Ce qui peut faire mal, c'est que ça fait encore écho à ce qui se passe aujourd'hui, quoi.
C'est la haine.
Ouais, c'est ça. C'est ce qui fait un peu mal au cœur.
Si vous ne deviez garder qu'un seul film de votre filmographie, allez, au hasard.
Bah, au hasard, comme ça, je vais dire jumeaux, mais pas trop. Hein.
Et pourquoi celui-là? Parce que c'est le dernier en date ou...
Non, pas parce que c'est le dernier en date.
Il vous a fait sortir de votre zone de confort.
Fait sortir de ma zone de confort, mais c'est pas le seul. J'ai tourné dans Un petit frère de Léonore Serrail, où c'est un film d'auteur.
Ben, vous étiez super dedans.
Merci beaucoup. Mais en fait, c'est celui qui m'a, je crois, le plus rapproché de ma famille. Ouais, j'ai trop pensé à mon papa sur ce film pour l'oublier. Vraiment. Hein.
Un film qui a changé votre vie?
L'Ascension.
Forcément.
Bah,
le
prix
à l'Alpe d'Huez, puis le film
ça,
a cartonné
Laurie,
après dans les salles.
Je serais pas là à faire une petite interview avec toi.
Oh si, parce qu'il y aurait eu d'autres choses, mais...
Ouais.
Parce que le talent paye toujours quand même.
C'est
mais
gentil,
c'est vrai
ça.
Que l'Ascension, ça a donné une bonne impulsion.
C'est vrai.
Votre bande originale de film préférée?
Je crois que c'est Hans Zimmer. Ce monsieur, il n'est pas fait comme nous. Oh là là, regarde, écoute.
Ouais, c'est la bande originale de Gladiator.
Non, c'est pas là, c'est là. Ça, si t'es un peu triste, faut se mouiller la nuque.
Bon,
hein.
Faut y aller, hein. Faut y aller.
Si tu viens de te, tu vois, si tu viens de te faire larguer.
Parce qu'on aime bien généralement quand on est triste
mais c'est
se
ça.
Faire encore plus mal.
Alors,
avec
Laurie,
ce genre
j'ai
de chansons
question.
En fond. Oui.
Est-ce que t'as déjà tapé les chansons les plus tristes sur YouTube?
Non.
T'as jamais fait ça?
Non.
Écoute, fais-le,
quoi,
mais quand
Google,
ça va bien.
Ouais.
Quand ça va bien, tu vas sur YouTube et tu tapes les chansons les plus tristes ou en anglais the saddest song ever.
Et là, qu'est-ce
qui sort? C'est-à-dire que t'as l'impression que le monde s'est écoulé autour de toi. C'est un enchaînement.
Ah oui, c'est la fin du monde.
Ah, mais c'est un enchaînement de coups de poing dans la gueule.
J'adore.
Vraiment.
Et moi, je peux avoir une petite tendance comme ça à aimer me faire du mal.
Ouais, non, mais ça, en fait, ça fait du bien quand toi, tu vas bien, tu écoutes ça et
ouais.
T'apprécies encore plus.
Ça procure des émotions de dingue.
Ouais.
Ahmed Silla, quel serait le titre du film de votre vie?
Drôle, mais pas trop.
Pas mal.
C'est pas sympa. Drôle, mais pas trop.
Et pourquoi pas trop?
Ou drôle, mais pas que.
Ah oui, ça
ce serait
ouais.
peut-être plus.
Moi, je trouve que ça, c'est mieux.
Voilà, drôle, mais pas que.
Ça te correspond mieux, ça.
Ouais, parce que drôle, mais pas trop, faudrait l'expliquer. C'est-à-dire, mais en fait, il est pas drôle.
Non, ça voudrait certains. Dire on rigole, mais bon, on peut être
ouais,
aussi
voilà.
sérieux.
Voilà, drôle, mais pas que. Comme ça, je peux montrer autre chose.
Et justement, si vous voulez voir plus d'Ahmed Silla, eh bien, vous allez voir Jumeaux, mais pas trop, mercredi prochain, le 28 septembre, au cinéma. Il joue aux côtés de Bertrand Huskla. Et c'est vraiment un duo fantastique. On a beaucoup aimé ce film entre rire et larmes. On aime
merci
bien cette,
beaucoup,
cette formule.
Laurie.
Merci, Ahmed.
Et surtout, il faut dire que François Cluzet n'est pas dans le film.
Oui, François Cluzet.
Non, mais faut pas déconner, merde. J'avais envie de le faire encore une fois.
Mais on adore François Cluzet. Moi, je veux bien aussi un petit pins Ahmed. Ahmed Silla, un pins François Cluzet.
Ah,
et là, je serai au top. Je vous propose qu'on écoute tout de suite la musique de Love Actually, qui est votre comédie romantique préférée.
Oui.
Moi, je vous dis au revoir. Je vous souhaite plein de bonnes choses pour la sortie
du
film.
Merci beaucoup, Laurie.
Et nous, on se retrouve dans un instant pour parler de l'actualité du cinéma avec deux autres grandes stars, Victor Bonnefoy et Franck Vallière. À tout de suite sur Europe 1. My Love des Pointer Sisters, la bande originale du film Love Actually, la comédie romantique préférée de mon invité du jour, Ahmed Silla. Ne bougez surtout pas, dans un instant, Franck Vallière et Victor Bonnefoy seront à mes côtés pour vous parler de l'actualité des sorties salles.
Europe 1,
17h, 18h,
Clap, Laurie Choleva.
Vous êtes bien à l'écoute de Clap et ça tombe bien puisque c'est l'heure du journal des sorties. Cette semaine, on parlera exceptionnellement du nouveau film Netflix de Romain Gavras.
Oh là là.
Avant de retrouver les salles obscures pour un déchirant destin maternel, on parlera également d'un projet mystérieux au sein d'une communauté des années 50.
Oh là là.
Et on terminera avec un joli documentaire sur David Bowie. Franck Vallière a très envie de vous en parler. Mais comme toujours, on fait un petit point sur le box-office. On va aller vite parce qu'on a beaucoup de choses à vous dire. Cette semaine, le cinéma français a continué de truster les premières places du box-office. On est bien content. Alors, aucun changement en première place du box-office. Vous en avez une idée? Compromat,
ouais,
exactement.
Voilà,
thriller de Jérôme Salles avec Gilles Lelouch qui a totalisé 340 000 entrées en deux semaines. C'est-à-dire que cette semaine,
cool,
il a fait déjà plus de 130 000 entrées. Donc voilà, ça
ouais,
c'est vraiment une bonne
super,
nouvelle.
Ça.
À la deuxième place, une nouveauté. On est très content puisqu'on recevait la semaine dernière Vincent McKaigne. C'est Chronique d'une liaison passagère, le
quel
nouveau
bonheur,
film d'Emmanuel Mouret. 120 000 personnes en une semaine.
Et c'est presque son plus grand hit, Mouret.
Ouais, c'est vachement
bien. Je crois que c'est son deuxième meilleur démarrage.
Et c'est très mérité. Et en troisième position, le film perd 14% de ses entrées, mais il y a quand même un excellent bouche à oreille. C'est Revoir Paris avec 114 000 spectateurs, drame avec Virginie Efira. Alors on commence notre tour d'horizon des sorties salles avec une sortie plateforme. C'est Athéna, le film événement de Romain Gavras, coécrit avec Lajli, qui avait réalisé Les Misérables. Le film a été présenté à la Mostra de Venise il y a quelques semaines. C'est un drame familial avec au centre la crise des banlieues. Après la mort suspecte de leur petit frère, une fratrie se retrouve au cœur d'un chaos face aux forces de l'ordre dans leur cité, Athéna. C'est un film choc, violent, spectaculaire, avec un excellent casting. Dali Ben Salah, qu'on avait vu dans le dernier James Bond, et Anthony Bajon.
À chaque fois qu'il tape, on tape. À chaque fois qu'il tue, on tue. Sur les réseaux, sur BFM, ils disent que si ça se trouve, c'est pas les condés qui font la bavure.
Non mais c'est quoi ton problème? T'aimes encore obéir aux ordres?
Comment tu veux pas qu'il y ait la guerre? Surtout pas ici, là.
Bon voilà, déjà la bande-annonce, elle est puissante.
Ouais, mais la bande-annonce rend pas vraiment hommage au film, parce que le film est bien plus grand que ça. En fait, il y a marqué sur l'affiche du film une tragédie de Romain Gavras, et c'est vraiment ça. Athéna, c'est une tragédie grecque. C'est un film de guerre. Il y a des images que vous allez voir dans ce film que vous n'avez pas vues ailleurs. Il y a sûrement les plus belles images de cinéma que j'ai vues cette année dans Athéna de Romain Gavras. C'est un film d'invasion de château fort. Il y a des scènes d'invasion de douves. On se croirait dans le gouffre de Helm. On a l'impression d'être dans le Seigneur des Anneaux, alors qu'il y a des CRS qui font des formations tortues avec des feux d'artifice autour. C'est un film qui est construit entièrement avec des plans séquences. Le début du film, c'est 20 minutes qui ne s'arrêtent pas. On court en 45. Voiture. Non, mais c'est hallucinant.
Les premières minutes sont absolument délirantes.
C'est hallucinant de technique, c'est hallucinant de maîtrise, c'est hallucinant de jeu, et surtout dès la bande-annonce, les gens se sont dit « Oh bah super, ça va être un film polémique, qui va parler des cités, quoi que ce soit ». Le film est tellement plus malin que ça. Le film va utiliser la multiplicité des points de vue. On est du côté de la banlieue, mais on est aussi du côté des CRS. On essaie de comprendre les enjeux de chacun.
C'est déjà le cas avec Les Misérables de Lajli. Hein.
Exactement.
Oui, alors attention, parce que esthétiquement, ça n'a plus rien à voir.
En fait, c'est un peu comme si le film, c'était les 5 dernières minutes des Misérables, mais pendant 1h30 non-stop. Voilà. C'est démentiel.
Le film convoque aussi bien New York 1997, Casso, que Fight Club, que 300, mais régurgité. Et surtout, là où ça va être intéressant, parce qu'il va arriver à avoir forcément des tentatives de récupération politique, et là où le film est très intéressant, c'est qu'il échappe à tout manichéisme. Certes, il prend position, mais il n'est pas partisan.
Oui, tout à fait.
Et ça, c'est exceptionnellement bien joué de la part de Gavras, dont, rappelons-le, un des précédents films, Notre Jour Viendra, était déjà d'une virtuosité hallucinante.
Son meilleur, pour moi, c'est Le Monde est à toi. Le Monde est à toi, avec Karim Leclou, c'est juste bien, enfin, c'est fou. Bref, voyez Athéna, on parle rarement film de plateforme, mais quand il y en a des aussi dingos que celui-là, il faut en parler, il faut le voir, et surtout, si vous voulez en parler, voyez-le.
Le plus dramatique, c'est qu'on pourra pas le voir en salle, et ça...
Et on revient maintenant au cinéma avec un film que vous pourrez donc voir sur grand écran, Don't Worry Darling, de la réalisatrice Olivia Wilde, film qui était présenté d'ailleurs au dernier festival de Venise, un film qui fait beaucoup parler de lui, qui suit la vie d'Alice, une femme au foyer d'une communauté californienne des années 50.
Tu sais seulement ce que c'est ce projet Victory, t'as cherché à savoir.
Et toi?
Qu'est-ce qui se trame ici?
Arrête Alice.
Et si on était en danger? Et si on...
Arrête maintenant! Non. Ça ne fait rien. Je suis curieux de savoir où elle veut en venir.
Ils nous mentent sur toute la ligne.
Nous ne reculerons pas! Nous sommes à l'avant-garde!
Un film avec Harry Styles.
Tout à fait, mais surtout avec Florence Pugh dans le premier rôle, qui est brillantissime. Vous l'aviez déjà vu normalement dans Midsommar ou peut-être dans Black Widow. Mais en tout cas, voilà, Florence Pugh ne cesse de me fasciner. Et c'est pour ça que je suis allé voir le film, parce que j'adore Florence Pugh. Par contre, le vrai problème, c'est qu'au bout de 3 minutes de film, je me dis, oh, c'est un film à twist. C'est bizarre, je suis sûr que le twist, c'est ça. Et au bout 1h30, c'était ça. Parce que c'est un film qui se croit bien plus malin qu'il ne l'est et qui essaye de compenser avec beaucoup d'esthétique pour dire, regarde, je bouge ma caméra et j'essaye de faire un peu des gimmicks en toc pour compenser le fait que je suis un peu bête. Alors oui, il y a des belles images, la photo est très jolie. Par contre, en termes de scénario, de machination Black Mirroresque, on a quand même vu mieux ailleurs dans n'importe quel épisode de la quatrième dimension.
Mais la grande question, c'est est-ce que Harry Styles a craché lors de...
Excusez-nous, moi je ne veux parler que de cinéma, comme disait Godard.
C'est vrai que je n'avais pas de soucis plus urgents à traiter que ça.
Parce qu'il y avait cette polémique quand même.
Oh, mais polémique,
mais
Victor.
Ouais. C'est quoi l'histoire? C'est une photo qui a circulé, c'est
ça? Ouais, non, mais c'est surtout qu'il y a eu des polémiques sur le tournage entre la réalisatrice et la comédienne. Mais le problème, c'est que quand on parle de ces polémiques, on parle que très peu de cinéma, et je trouve que ça quand même un peu tué la carrière de ce film-là, parce que tout le monde n'a parlé que des polémiques et des petites batailles d'ego. Au final, je préfère parler du film.
On écoute ce que vous en avez pensé.
Très bonne surprise. Une fin assez incroyable quand on comprend le pourquoi du comment. J'y aurais jamais pensé.
Je trouve qu'il manque quelque chose. J'ai été pris par tout le film et je suis déçu par la fin.
Florence Pugh, elle était super, comme toujours. Et la fin, le plot twist, c'était super.
C'est bien mené, il y a du rythme. Mention spéciale aussi à la bande-son du film.
Quand il y a Florence Pugh dans un film, je vais le voir. J'ai trouvé ça chouette, ça tient bien la route. Et l'esthétique m'a beaucoup plu. C'est bien fait, quoi.
Et oui, elle fait l'unanimité, Florence Pugh. On continue avec un film bouleversant, Les enfants des autres, de Rebecca Zlotowski. L'histoire est simple, mais elle va vous toucher en plein cœur. Virginie Efira et Rachel, une prof de français, une quadra, qui n'est pas encore mère et qui va rencontrer Ali, joué par Roche Dizem. Lui, il est le père d'une petite fille de 4 ans. Elle va tomber amoureuse du père, mais elle va aussi tomber sous le charme de la petite fille. Le problème, c'est que lorsqu'on s'attache à l'enfant d'un autre, eh bien, on prend le risque de souffrir.
Mais si tu crois un jour que...
Elle a 5 ans.
Bah, t'apprends qu'à cet âge-là, ça veut absolument rien dire.
Direct, tu fais semblant de pas comprendre que je m'attache à elle. À la fin de la journée, c'est vous, son père et sa mère. Pour toujours. Je resterai une figurante.
T'exagères.
Il y a beaucoup de choses dans ce film, oui. Puisqu'il y a la figure de la belle-mère, il y a le désir de maternité à un âge 40 ans où ça devient moins facile. Et il y a quelque chose aussi sur la transmission, Franck Gaillard.
Ce n'est que ça, c'est-à-dire que la façon dont tu l'as annoncé, Laurie, et ce que développe la bande-annonce, c'est presque pour tromper le spectateur. Mmh. C'est donner une fausse piste, parce que le nœud du film, c'est la transmission. Mais au sens large, c'est-à-dire que n'importe qui a des amis qui ont des enfants, sait que avec son meilleur ami, avec son frère, sa sœur, on ne peut pas dire hey, « tu crois pas que ton gamin il ferait mieux de faire ça. » C'est un truc qu'on ne peut pas rentrer dans cette sphère-là. Le film part d'abord, a priori, de la difficulté, même quand on est amoureux, dans le cas du personnage que joue Virginie Efira, de quelqu'un très fort, de la difficulté de rentrer dans une sphère familiale déjà établie, qui a déjà ses codes, et de, avec toute la bienveillance du monde, c'est très difficile de pénétrer cette sphère-là. Un. La deuxième chose, c'est comment transmettre au sens large. Comment improviser le désir qu'on a en soi de partager les bonnes choses qu'on a pu accumuler, comprendre dans un monde qui va si vite et qui est si dur. Et avec deux personnages qui sont extrêmement aimants, et ben malgré tout, ils vont arriver à se faire du mal. C'est fascinant ce film, c'est fascinant.
Ouais, non, moi j'ai beaucoup aimé aussi Les Enfants des Autres. Je trouve ça très joli. C'est du cinéma de l'intime, c'est du cinéma du détail, justement, où on va avoir une petite main qui se touche, un petit bisou. En fait, c'est fou parce que c'est un cinéma qui sent la fémise, qui sent ces écoles de cinéma-là, qui a tout pour m'emmerder. Vraiment, quand je le regarde de loin, je me dis, oh, je vais être à 100 km du film. Et en fait, non. Parce que c'est fait avec une telle sincérité, c'est fait avec une telle douceur, une telle beauté. Et Virginie Efira prouve encore une fois que c'est sûrement un de nos plus grands talents français. Et qu'est-ce qu'on l'aime. Non, vraiment, je suis très touché par le film, très emporté. Et la figure de la belle-mère a tellement été maltraitée dans la culture en général.
Bien sûr.
Que la voir par un autre prisme, ça fait plutôt du bien.
Le film est fantastique. Il rend hommage. Il y a quand même 3 hommages au cinéma de Claude Sautet dans les 5 dernières minutes. La fin est bouleversante. C'est vraiment.
On a tous beaucoup aimé, on va écouter vos réactions.
Très beau film, c'est émouvant, c'est très bien joué. C'est un film qui peut toucher beaucoup de gens.
J'aime beaucoup le travail de la cinéaste et je trouvais que c'était vraiment son film le plus abouti.
J'étais un peu déçu parce que j'aime beaucoup les acteurs, j'aime bien ce que fait Rebecca Zlotowski, mais là je suis pas rentrée dans le film.
J'ai adoré Virginie Efira et Roche Dizem jouent très très bien, la petite fille aussi. C'est vrai que j'ai eu 2 ou 3 fois les larmes qui sont montées aux yeux en même temps parce qu'on s'identifie à Virginie Efira, enfin très très joli film.
Une autre sortie française cette semaine, le nouveau film de Christian Carion, Une belle course, l'histoire d'une rencontre, celle d'un chauffeur de taxi un peu bougon et d'une nonagénaire pleine de sagesse, Céline Renaud et Danny Boone qui sont une nouvelle fois réunis à l'écran pour cette comédie dramatique simple mais émouvante, un trajet en taxi qui va changer la vie. Et puis Franck, pour terminer, vous vouliez nous parler d'un documentaire sur David Bowie.
Idéal pour le samedi soir parce que c'est un univers en soi, vous l'allez sortir ce soir à minuit, vous êtes là, waouh, c'est super en fait, David Bowie était génial parce qu'il œuvrait un peu à la manière d'un grand reporter, il allait chercher sonder des secteurs hyper pointus pour les ramener vers la norme tout en ayant le talent de pouvoir entretenir son statut de star. Et en fait, ça casse les codes du docu. C'est pas chronologique, c'est pas géographique, il n'y a pas de voix off. 7 ans de boulot pour le réalisateur. Rien qu'un an et demi de boulot sur le sound design parce qu'on passe d'une séquence à une autre en mélangeant les sons. C'est complètement hypnotique. C'est un docu complètement dingue.
Donc le titre de ce documentaire, c'est Moon Age Daydream. Merci beaucoup à tous les deux. C'est déjà la fin de ce clap. Ahmed Silla était mon invité aujourd'hui. Il nous a parlé de la comédie jumeau mais pas trop, qu'il faudra donc découvrir mercredi prochain, le 28 septembre, au cinéma. Tout de suite, vous avez rendez-vous avec Pierre de Villeneuve pour Europe Soir. Et nous, évidemment, on vous donne rendez-vous la semaine prochaine. On sera
toujours
là, fidèle au poste.
On sera là.
Et continuez d'aller au cinéma. À bientôt sur Europe 1.